Radio Kapi.
Examen d'état 2020 en RDC. Demain, c'est la fin des épreuves, mais attention, les candidats qui terminent leur examen doivent rentrer chacun chez soi. Gare à ceux qui tenteront de troubler l'ordre public, prévient le patron de la police ville de Kinshasa. Le test Covid-19 coûte désormais 30$ dans les deux laboratoires homologués du Sud Kivu. Cela en lieu et place de 60$ jadis au laboratoire de Panzi, annonce faite par le ministre provincial de la Santé. Et puis, l'invité de ce journal, Nestor Maroy, président de l'Ordre national des experts électoraux, il s'exprime notamment sur la question d'un ou des deux tours à la présidentielle, question qui fait débat actuellement dans le pays. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrant ce journal par cette mise en garde du patron de la police ville de Kinshasa, les élèves qui termineront leur examen d'état demain sont priés de regagner leur domicile tout de suite après, car quiconque oserait troubler l'ordre public sera appréhendé par les forces de l'ordre qui seront déployées partout dans la ville province de Kinshasa. Ces propos sont du général Silvano Kasongo. Il s'est exprimé ainsi ce mercredi dans une interview à Radio Kapi en prévision de la fin ce jeudi 10 septembre des épreuves de l'examen d'État. Pour lui, dans ce contexte de Covid-19, aucune violation des gestes barrières ne sera tolérée. Le général Silvano Kasongo, joint par Blaise Shindani Kambala.
Je demande aux élèves de savoir d'abord qu'ils sont là pour leur avenir, ils sont là pour leur éducation. Ils ont terminé, ils vont terminer demain. C'est une fête pour eux, bien sûr, mais la fête doit se faire dans la sérénité, dans la discipline et puis dans la bonne conduite. Nous sommes dans une période spéciale de la Covid. On n'acceptera jamais que l'ordre public soit troublé. Il dit, si quelqu'un termine son examen, il n'a qu'à rentrer à la maison. Vous ne pouvez pas voir des élèves dans des bars en uniforme ou au-dessus des véhicules, se cramponner au-dessus des véhicules ou faire du n'importe quoi. La police sera déployée partout pour dissuader et mettre la main sur quiconque qui se comporterait de la sorte. Je demande aussi aux parents de veiller, de dire à leurs enfants de bien se comporter parce que nous avons des difficultés économiques, c'est à moins qu'ils aient beaucoup d'argent à dépenser à la police, parce que c'est eux qu'on va arrêter et il y aura des amendes à payer et d'autres infractions qui vont s'en suivre.
Et bien sûr, l'examen d'état 2020 prend fin demain. Cependant, au Nord Kivu, certains élèves finalistes de la ville de Butembo et de la commune rurale de Kirumba, en territoire de Lubero, se plaignent du fait que, selon eux, les épreuves ont été composées pour la plupart en dehors des matières vues en classe. Pour eux, la composition de ces épreuves n'a pas tenu compte des lacunes qu'ils ont eues dans l'accomplissement des programmes scolaires. Les mouvements des élèves finalistes de Butembo et celui de Lubero disent craindre un échec cuisant et appelle les autorités à une clémence lors de la correction. Grâce à Mzati, il les a rencontrés. Reportage.
Ça ne va pas ou ça va un peu? Telle est souvent la réponse que la plupart des finalistes et des Butembo interrogés nous donnent par rapport au déroulement des examens d'État. Beaucoup parlent d'une surprise négative concernant la composition de ces épreuves. Feng Sewalaya est le vice-président du mouvement des élèves finalistes de Butembo.
Les ministres ont promis faire l'examen d'État tenant compte des 7 ossatures de l'année que nous sommes en train de franchir. Nous avons une surprise négative selon laquelle l'examen était déjà élaboré avant qu'on ait jeté coup dessus le programme.
D'où l'appel à la clémence lors de la correction.
Il y a une clémence de la correction. C'est une année spéciale, une année pas comme d'autres années.
Même son des cloches du côté des élèves finalistes de la commune rurale de Kirumba, en territoire de Lubero. Ici, la plupart des finalistes avaient préparé ces épreuves en solo car les enseignants leur exigeaient de l'argent pour se faire. En réaction, les directeurs de la province éducationnelle Nord Kivu 2 indiquent que l'évaluation ne tient pas compte d'une région, mais plutôt du programme national. Pour lui, les matières non vues dépendent d'une école à une autre. Toutefois, le prophète Adakudawa encourage les finalistes et les invite à la foi, car d'après lui, les correcteurs savent aussi que cette année est spéciale et la correction pourrait être aussi spéciale. Butembo, grâce à Mzati, Radio Okapi.
Examen d'état toujours, noté le début ce mercredi du jury national pour les filières techniques médicales, autrement appelé jury d'état. Ici, les concurrents cherchent à décrocher le diplôme d'état en technique médicale pour avoir un emploi dans les structures médicales ou poursuivre les études dans les institutions supérieures médicales du pays. Le pôle de Goma concentre environ 185 finalistes, toutes filières confondues, dont 118 filles et 67 garçons. Reportage de Jules Ngala.
C'est le ministre provincial de la Justice, représentant personnel du gouverneur de province, qui a donné le go de la session à l'Institut d'études médicales IEM Virunga.
Sinon, beaucoup de courage et toutes les bonnes chances.
Pour cette première journée, les finalistes des écoles médicales depuis Rutshuru jusqu'à Walikale vont devoir affronter plusieurs épreuves, dont celle-ci énumérée par Jacques Wembo, président du jury national pour le pool de Goma.
Ceux de la filière infirmière, ils vont présenter les épreuves de santé communautaire. Ceux de technique de labo, ils vont faire l'examen de biochimie. Et ceux de nouveaux programmes, ils vont présenter gynéco, obstétrique, pathologie, pédiatrie et soins.
À la clé, le diplôme d'état des filières techniques médicales, SESAM, pour travailler dans les structures médicales du pays ou poursuivre ses études dans les institutions supérieures médicales. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Du côté du Congo central, nous apprenons que 376 finalistes à ces épreuves sont des enfants vulnérables. Ils sont disséminés à travers la province et passent les épreuves dans un manque criant en logistique. La division provinciale des affaires sociales qui pilote ce jury national dans le cadre de l'éducation non formelle, conformément à la Constitution, affirme qu'elle n'a jamais perçu des frais de fonctionnement depuis près de 15 ans. Explication Nana Plurich Mambo.
Selon son responsable Roger Ndangui, concernant les épreuves du jury d'État, la division provinciale des affaires sociales est confrontée non seulement au manque des imprimés, mais aussi au manque des moyens financiers, devant servir notamment au transport des inspecteurs qui supervisent ces jurys et à la paye des examinateurs. Ces difficultés, Roger Ndangui en parle.
Il y a des décrets à acheter, des pagnes, des tissus, des machines à réparer, des camions à réparer parce qu'il y a auto-école. Comme nous n'avons pas un camion approprié pour la pratique. Au gouvernement central, nous demandons qu'on puisse mettre des frais de fonctionnement. Parce que depuis que je suis là, chef de division, je n'ai jamais vu un frais de fonctionnement au centre. Ça fait déjà plus de 15 ans, abandonné.
Il faut dire que les 376 enfants démunis participent au jury d'État après 3 ans de formation dans les sections suivantes. Mécanique auto, esthétique et coiffure, maçonnerie, coupe et couture, informatique et secrétariat, auto-école, électricité et froid. Pendant les 4 jours du jury, les enfants sont obligés d'écrire à main libre. La division provinciale des affaires sociales indique qu'elle ne dispose ni des ordinateurs, encore moins des imprimantes, pour saisir et dupliquer les copies des examens, conclut Roger Ndangui. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Direction l'Ituri. 8 personnes ont perdu la vie dans une nouvelle attaque des rebelles de l'ADF hier à Belou, localité située dans le sud du territoire d'Irumu. D'après la société civile locale, d'autres personnes dont on ne connaît pas le sort jusqu'à présent ont été enlevées à Ngoudougoudou dans la même entité. Des habitants qui avaient regagné leurs habitations après une accalmie observée dans la zone sont de nouveau retournés dans des sites à Boga, la chefferie voisine. Sud Kivu, un dispositif sécuritaire mixte MONUSCO Police Nationale Congolaise est en étude en vue de renforcer la sécurité du docteur Denis Mukwege. Déclaration du chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu Emaniema dans un entretien Radio Kapi. La réaction de Karna Soro intervient après plusieurs dénonciations des menaces de mort qui pèsent sur le prix Nobel de la paix 2018, raison pour laquelle le docteur Mukwege avait personnellement écrit au secrétaire général de l'ONU et à la chef de la MONUSCO pour exprimer ses inquiétudes au sujet de sa sécurité. Réponse de Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu Emaniema, recueillie par Cynthia Bachizi.
Dès que le docteur a exprimé donc ses inquiétudes et qu'il y a eu ces ménages qui ont été relayés, la représentante spéciale a tout de suite instruit les instances spécialisées de la MONUSCO, notamment la police de la MONUSCO, d'entreprendre ensemble en coordination avec la police nationale congolaise, si vous voulez, une évaluation de l'ensemble du dispositif sécuritaire autour de Panzi. Nous sommes en train de travailler avec la police nationale congolaise. Le dispositif de protection du docteur, c'est un dispositif articulé entre la MONUSCO et la police nationale congolaise, ce qui permet d'une part un transfert de compétences de former les policiers congolais à la protection des personnalités. Donc cela fait partie aussi des instructions de la représentante spéciale de nous assurer que le travail qui est fait en coordination avec les autorités locales de manière à ce qu'il y ait ce transfert progressif de compétences pour leur permettre de pouvoir assumer de façon responsable et professionnelle cette sécurité une fois que la MONUSCO part.
Je vous disais en titre, au Sud Kivu, les tests COVID-19 coûtent désormais $30 dans les deux laboratoires homologués de la province. Annonce faite par le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu, le test COVID-19 coûtait auparavant $60 au laboratoire de Panzi, alors qu'il était à $30 au laboratoire Inerbe de Bukavu. Ces tests donc sont payants uniquement pour les voyageurs en quête d'une attestation médicale. Ils restent gratuits pour les malades qui présentent des symptômes. Écoutez plutôt Cosmos Bichicha, ministre provincial de la Santé au Sud Kivu. Il est au micro de Cynthia Bachizi.
L'antenne de l'INRB opérationnelle dans la province du Kivu, vu que le laboratoire installé à Panzi, on a uniformisé en termes de prix qu'aujourd'hui l'antenne de l'INRB et le laboratoire de Panzi, le prix est maintenant fixé à $30.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce rabais?
Madame, ce rabais, c'est le résultat de négociations entre l'autorité provinciale et l'hôpital de Panzi. Bien sûr, il y a un accompagnement en termes de subvenir à certains besoins de ces laboratoires.
Par ailleurs, le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu invite la population de continuer à respecter les mesures barrières car le virus circule encore dans la province notamment. Pour ce qui est des données actualisées du coronavirus, le ministre indique que le Sud Kivu a franchi la barre de 300 cas confirmés. Le cumul est de 301 cas confirmés, dont 241 guéris, 46 décès et 4 cas en cours de traitement. En plus des zones de santé des 3 communes de la ville de Bukavu, 12 autres zones de santé de la province du Sud qui vous sont touchés. Et puis, cette réaction du porte-parole adjoint de Moïse Katumbi à ce qu'il considère comme étant un plan machiavélique du FCC, il faut barrer la route à tout plan visant à se servir d'une majorité au Parlement pour imposer aux Congolais un mode indirect pour l'élection présidentielle de 2023. Francis Kalombola dit aujourd'hui à Kinshasa et demande à la population de se tenir debout contre un tel plan et à exiger avant toute chose la réforme totale de la CENI. Francis Kalombo, au micro de Jeff Ngoy.
Le FCC a toujours utilisé le Burundi comme laboratoire. Où est-ce qu'on veut nous amener? Exactement l'argument de Kourouziza, le pauvre. C'est pour dire que voilà, là Kabila a été élu au suffrage universel direct. Maintenant, au suffrage universel indirect, il n'avait pas été élu. Donc, puisque ça change, on remet les compteurs à zéro, comme nous voyons dans d'autres pays. Donc, c'est un plan machiavélique où on veut l'imposer avant même la fin du mandat 2023, puisque c'est maintenant qu'ils ont une majorité artificielle. Et après, ils savent pas s'ils auront une majorité ou pas, donc ils sont pas sûrs. Ils veulent utiliser leur majorité tout de suite après avoir modifié la loi pour faire des choses dont on tait le mot aujourd'hui. Nous devons faire attention. Il faut que le peuple puisse être debout et pour commencer dès maintenant à barrer la route à ces plans machiavéliques. Mais les élections, lorsqu'ils parlent de prix, les élections au Congo coûtent moins cher. C'est parce qu'ils gonflent, ils surfacturent. Je pense qu'il faut réformer d'abord la CENI, rassurer tout le monde. Lorsqu'une élection doit être indépendante, il ne faudrait pas que les uns puissent avoir beaucoup de membres dans cette institution pour dominer les autres.
En sport, Junior Ilunga Makabu défendra en novembre prochain sa ceinture de champion du monde en lourd léger. Le pugiliste congolais a connu un retard pour sa préparation à cause de l'arrêt des activités sportives, arrêt dû à la pandémie de coronavirus. Le Congolais veut aller vite, c'est la raison de sa visite hier au ministre des Sports Amos Mbayo Kitenge. Ilunga Makabu s'y est rendu pour avoir aussi les informations sur la participation financière du gouvernement congolais. Enoch Matondo nous en dit plus.
L'argent suit son cours normal dans le circuit financier, a confirmé le ministre des Sports Amos Mbayo, comme le précise ici Junior Makabu.
Nous sommes allés voir le ministre, il nous a parlé et nous a promis que tout allait un peu bien et le dossier était déjà en finance. J'étais avec mon promoteur et il nous a répondu ça. C'est-à-dire nous avons vu le ministre pour un peu activer, afin que ça ne puisse pas se passer comme ça se passe souvent au pays.
À un mois de ce combat, Ilunga Luyo, président de la fédération, souhaite que Junior Makabu commence rapidement les préparatifs prévus en Roumanie.
Il est en forme, on attend juste pour qu'il puisse se rendre au cas d'entraînement. Hier, on était avec le ministre Mbayo parce que nous sommes en retard, vraiment en retard. C'était par rapport au Covid.
Le pugiliste souhaite que cette fois, les choses se passent mieux par rapport à son dernier combat en janvier dernier.
Le combat que vous avez vu n'était pas facile pour moi. C'était un combat très difficile. J'ai souffert dans le camp de préparation. Je me prépare souvent pendant 8 semaines. Mais je me rappelle, je me suis trouvé devant une très grande situation. Enfin que le camp de préparation a été doublé. Je suis arrivé à faire ce qu'on appelle overtraining, c'est-à-dire je me suis entraîné beaucoup plus. Ce n'était pas un combat facile, mais je n'avais pas le choix à faire tout sacrifice afin que ces ceintures restent chez nous au pays. Ces histoires-là ne doivent pas se répéter encore. Nous devons être professionnels et avancer.
Actualité Afrique Monde.
Présidentielle en Guinée, on connaît désormais les noms des personnes qui tenteront leur chance le 18 octobre 2020. Parmi les personnalités les plus en vue, le président sortant Alpha Condé et Sélou Dalène Diallo, le chef de file de l'opposition. Notez que cette présidentielle intervient après plusieurs mois de contestation menée par la société civile et l'opposition contre un troisième mandat du président sortant. Au Mali, la junte malienne divise désormais le M5 RFP, entendez, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, ce mouvement de contestation qui a participé à la chute du régime Ibrahim Boubacar Keïta, l'organisation de la transition et la pomme de la discorde. Au sein de la junte, certains, mais pas tous, souhaitent ouvertement qu'un militaire la dirige, alors qu'au sein du M5, il y a désormais ceux qui veulent ouvertement une transition civile au Mali. Des concertations donc nationales sont prévues pour demain, jeudi 10 septembre. En Grèce, plusieurs feux se sont déclenchés tôt ce matin dans le camp des migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Une opération de sauvetage d'envergure est en cours. L'île est déclarée en état d'urgence. Selon les pompiers, les feux épars dans la prairie autour du camp, mais aussi à l'intérieur de la structure, mobilisent 25 sapeurs et 10 véhicules pour évacuer ce camp surpeuplé de l'île, l'un des pires d'Europe, qui héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile, soit 4 fois sa capacité d'accueil.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le président de l'Ordre national des experts électoraux. Nestor Maroy estime que la question liée aux réformes électorales est une disposition fondamentale prévue dans la gestion de tout cycle électoral. À propos de la question d'un ou des deux tours à la présidentielle notamment, question qui fait débat actuellement dans le pays, Nestor Maroy estime qu'il faut examiner rapidement les réformes majeures. Il s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Nestor Maroy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Certains acteurs sociaux et politiques estiment que les réformes électorales sont inopportunes parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de crise pour le moment. Votre réaction à chaud?
D'abord, je suis désolé de constater que la question des réformes, on en fait une question presque mythique alors que la réforme électorale, c'est une disposition prévue dans la gestion d'un cycle électoral. Les procédures prévoient qu'à chaque cycle électoral, il faut évaluer le cycle électoral. C'est à l'issue de cette évaluation qu'on peut recadrer les choses qui ont marché et requalifier les choses qui n'ont pas marché pour pouvoir en faire des évaluations objectives.
Ça veut dire, en tant qu'expert, vous estimez qu'on ne devrait pas faire un mythe?
Parce que la CENI a déposé son rapport à l'Assemblée nationale, ça veut dire que la CENI s'est auto-évaluée. C'est-à-dire la CENI a donné les éléments substantiels des opérations électorales qui effectivement montrent les avancées et les reculs dans son rapport. À l'issue du dépôt de ce rapport, l'Assemblée était dans l'obligation directement d'inviter la CENI à la défense de son rapport et ça devrait déboucher directement à la proposition des réformes. C'est une question procédurale normale. Ça ne devrait pas faire un problème.
Comment jugez-vous les deux cycles passés en RDC, notamment les récents ou les derniers cycles?
Les derniers cycles ont été inversement évalués par les parties prenantes, notamment en 2005. Il y a une évaluation de l'Union européenne qui avait crédité ces élections-là crédibles. En 2011, les partenaires extérieurs et comme internes ont évalué également ce cycle avec toutes les données qu'on a obtenues dans les rapports de l'Union européenne et de toutes les organisations indépendantes. Il en est de même en 2018. Je crois qu'il n'y a pas un cycle parfait. Tous les cycles ont leurs forces et ils ont leurs faiblesses. Alors, l'idée des réformes, c'est d'améliorer les faiblesses pour qu'ils soient des forces.
Selon vous, Que faut-il améliorer, changer, ajouter ou soustraire?
Il faut examiner au plus profond de la question les réformes majeures. Il faut regarder d'abord si le nombre de tours, par exemple à l'élection présidentielle, a été une question qui a pu émerger la légalité au niveau de la légitimité.
Mais vous, en tant qu'expert, vous devez savoir orienter ou donner des recommandations sur ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut supprimer.
Moi, je propose qu'au niveau des réformes majeures, on regarde effectivement le nombre de tours organisés par rapport au scrutin présidentiel, qu'on regarde effectivement les délais par rapport à l'organisation du second tour.
Mais dans l'entretemps, les organisateurs ont mis devant la scène le problème financier par rapport à des tours.
Ce sont des problèmes de second rang. Les problèmes, c'est d'abord les questions d'option. Si on dit qu'on lève l'option, les appels financiers doivent se discuter après pour pouvoir mobiliser les moyens.
Donc c'est une question de volonté.
Tout à fait, c'est une question de volonté et une question d'abord d'option.
Dans l'entretemps, il y a les élections locales qui n'ont jamais été organisées. Ce n'est pas un couac dans la démocratie congolaise?
Évidemment, ce sont des couacs parce que, comme vous pouvez le constater, on assiste à des cycles inachevés. Il faut que les options soient clairement levées pour pouvoir organiser ce cycle là et compléter le cycle, parce que quand un cycle ne se termine pas, il est inachevé. Monsieur l'abbé Maloma loupé à son âme, il avait parlé des arriérés électoraux, et moi je crois qu'aujourd'hui, il est possible d'organiser tous les scrutins en un seul go avec la facilité de la technologie électorale.
La technologie électorale, vous voulez insinuer quoi?
Le 30 décembre 2018, on a voté avec la machine à voter. Est-ce qu'on a évalué les performances de cette machine? Est-ce qu'on a évalué les avancées par rapport à ça? Quels étaient les avantages? Quels étaient les désavantages? Qu'est-ce qui a amélioré? Pourquoi pas ne pas ajouter les élections locales au même moment avec la même machine.
Vous avez parlé des réformes majeures. Est-ce qu'il y a aussi des réformes mineures?
Oui, il y a également des réformes mineures. Mais en parlant des réformes majeures, il faut d'abord insinuer que ce n'est pas seulement au niveau de la Constitution. Il y a également des réformes majeures au niveau de la loi électorale et même au niveau de la loi portant attribution et fonctionnement de la CENI. Et puis les réformes par rapport à la loi électorale. On peut évaluer le système électoral. On peut se dire, par exemple, est-ce que la proportionnelle a été un système qui a avantagé les Congolais? On peut évaluer les seuils. On peut faire une réforme à plusieurs niveaux. Tout est question de l'évaluation de ce qu'on aura fait par rapport à la gestion du cycle électoral. J'insiste en disant que les réformes, c'est une question citoyenne. Elle doit être traitée avec beaucoup plus de sérieuxité.
Pourquoi l'idée de créer un ordre des experts électoraux en RDC? Et quelle sera sa contribution dans les processus?
C'est pour mettre fin au désordre qu'on observe au niveau des acteurs qui veulent en venir à l'animation de l'institution CENI. Tout le monde se qualifie d'expert. Il suffit que quelqu'un ait été membre d'un bureau de vote et il se dit qu'il est expert et qu'il est candidat ou à la présidente de la CENI. Ça, c'est inacceptable. L'ordre national vient corriger toutes ces erreurs-là. L'ordre a comme objectif d'aviser, de prévenir et voire même de sanctionner afin de remettre l'ordre dans ce métier d'expertise électorale qui est un métier noble.
Nestor Maroy, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Voilà, c'était là notre invité, le président de l'Ordre national des experts électoraux. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Axel Goncho, coordination de Richard Junior Kamunga, à la technique Willem Lungamba et la présentation de Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Radio Okapi.